إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم، donc on commence aujourd'hui un nouveau livre بإذن الله. Et ça, c'est un livre qui s'intitule Iqtida'u Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim. C'est un livre écrit par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et c'est un livre dans lequel il clarifie et il montre l'interdiction d'imiter les kuffars, et en particulier d'imiter les juifs et les chrétiens. Il ramène les preuves à ce sujet-là de façon vraiment élaborée et détaillée en profondeur. Et on va lire l'explication et les commentaires qui ont été donnés par Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, de ce livre. Dans le livre qui a été intitulé At-Ta'liq Al-Qawim ala Kitab Iqtida' Al-Sirat Al-Mustaqim li Mukhalafati Ashab Al-Jahim. Donc c'est un livre qui a été expliqué et commenté par Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah. Et donc ça rajoute au livre plus de clarté, plus de compréhension. Donc on va se baser sur ce texte-là, inshallah. Donc on commence avec donc ce livre. C'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de frères qui m'ont demandé de le faire en cours. Bon, moi-même personnellement, je préférais attendre justement qu'il y ait un charh pour le faire. Donc ce livre-là, il a été expliqué par le Cheikh Salih Al-Fawzan dans des cours qu'il a donnés en audio à la radio et retranscrit. Par la suite, ça a été publié. Et donc, c'est la version de ce qu'on a maintenant aujourd'hui, alhamdoulilah, qui est publiée, alhamdoulilah, par Maktabat al-Risala al-Alamiyya. Donc, on va lire ensemble ce livre sans plus attendre, inshallah. Il a 5 volumes, le livre c'est 5 volumes, ça va prendre du temps pour le terminer, mais on n'est pas pressé, inshallah. Et ça va répondre à beaucoup de questions et clarifier beaucoup de sujets, parce que, et en particulier parce qu'on vit dans les pays de Kufa en ce moment, et qu'on est là, donc les musulmans qui sont dans les sociétés des Kufar, et aussi ceux qui sont dans les pays musulmans, ont besoin de connaître ce qui est expliqué dans ce livre-là, justement parce qu'ils font face à toutes ces situations, hein, de qu'est-ce qui a rapport avec le fait de côtoyer les gens du livre, les juifs et les chrétiens, et de les imiter. Donc ça, c'est un fléau actuellement à notre époque, et on a besoin donc de connaître le verdict de cette chose-là en détail. « Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa bihi asta'in. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فمن رحمة الله عز وجل أنه بعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف ما كان في الشرائع السابقة. فبنو إسرائيل مثلا كانت تسوسهم الأنبياء، كما جاء في الحديث الصحيح كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وأما هذه الأمة فإنه لما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، فإن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء يقومون مقام الأنبياء الذين بعث في بني إسرائيل في الدعوة إلى الله وتبليغ هذا الدين للبشرية وتجديده مما يعلق به من البدع والخرافات والمحدثات. ومن هؤلاء المجددين الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il commence en disant que ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a envoyé à cette umma à la tête de chaque cent ans, c'est-à-dire à la tête de chaque siècle, quelqu'un qui vient réformer et régénérer sa religion. Comme ça a été mentionné dans le hadith authentique qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Abu Dawood, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, yani il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: inna Allah yab'athu ala ra'si kulli 100 sanatin man yujaddidu laha dinaha. Et non, il est également rapporté par At-Tabarani dans Al-Awsat. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé s'est produit et s'est réalisé effectivement. Et ça, c'est contrairement à ce qui s'est passé pour les révélations précédentes, comme par exemple pour les fils d'Israël. Eh bien, les fils d'Israël étaient gouvernés par leur prophète. Et comme c'est mentionné dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, il mentionne que Banu Israël était dirigé par les prophètes, et que chaque fois qu'un prophète mourait, un autre prophète venait pour le succéder. Tandis que dans cette umma, la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, il n'y aura plus d'autres prophètes après lui, alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce soit les ulama, que ce soit les savants dans cette umma qui prennent la place des prophètes, dans le sens que ce sont eux qui font le travail, qui ont la tâche de faire le travail de ce que faisaient les prophètes, c'est-à-dire dans le sens de propager la foi, d'appeler à l'islam, d'appeler à Allah, de transmettre la religion à l'humanité et de nettoyer et de régénérer la religion et de purifier la religion de ce qui a été accroché dedans ou ramené dedans de la part des innovateurs, comme innovation ou superstition ou choses fabriquées ou inventées, des choses qui ne font pas partie de la religion. Donc ça, c'est leur rôle, c'est-à-dire c'est le rôle des ulama de faire ce travail, de faire la da'wah, transmettre le message, de purifier la religion des innovations, des superstitions et des choses inventées qui ont été incorporées à la religion et qui n'en font pas partie. Donc, parmi les grands ulama, parmi les grands réformateurs de la Ummah, il y a le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah. Na'am. Donc le cheikh il dit ensuite wajadduhu huwa Abu al-Barakat Abdul Salam ibn Taymiyyah min kibar a'immat al-madhhab al-Hanabila yurja'u ilayhi fi ma'rifat al-madhhab wa litabahhurihi فيه حتى قيل فيه إن الله ألان له الفقه كما ألان الحديد لداود. Donc يعني شيخ il explique que le grand-père de Ibn Taymiyyah, sa kunya c'était Abu al-Barakat et son nom c'était Abdus Salam Ibn Taymiyyah, et il fait partie des grands imams du madhhab al-Hanbali, ceux qui ont étudié le fiqh et la religion, les fondements de la religion et le fiqh selon les bases enseignées par Cheikh l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc il revenait vers Abdus Salam ibn Taymiyyah, le grand-père de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, pour connaître le madhhab de l'imam Ahmad à cause du fait que le grand-père de Ibn Taymiyyah avait au sujet de ce madhhab une grande compréhension, une grande connaissance. Et c'est pour cette raison-là que les gens disaient à ce sujet-là que Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu facile le fiqh, lui a rendu le fiqh souple et facile, de la même manière que Daoud, Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu souple et maniable et facile à manier le métal ou le fer. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan il dit وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِينَ كَذَلِكَ وَلَهُ كِتَابَ الْمُنْتَقَى مِنْ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ وَكِتَابَ الْمُحَرَّرِ فِي الْمَذْهَبِ. Donc il fait partie des grands ulama de hadith aussi, c'est-à-dire le grand-père. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah fait partie des grands ulama, des grands savants de hadith, et il avait un livre de hadith qui s'appelle Al-Muntaqa, qui rassemble des hadiths au sujet des règles du fiqh, ainsi qu'un livre qui s'appelle Al-Muharrar, qui est dans le madhhab, c'est-à-dire qui se concentre sur le fiqh du madhhab. وأما شيخ الإسلام ابن أحمد بن تيمية فهو الإمام الجليل البحر الخضم البدر الساطع الذي لا يشق له غبار في العلوم والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. ولقد قيضه الله في وقت كان العالم الإسلامي يغط في سبوت عميق من الغفلة والتقليد وانتشار البدع والخرافات والمحدثات التي راجت وانتشرت في عهده, وبالرغم من وجود أعداد كبيرة من الفقهاء, إلا أن جهدهم كان منصبا على الفقه فقط دون الاهتمام بأمور العقيدة, بل كانوا مقلدين فيها من سبقهم من أهل الأهواء والبدع إلا النزر اليسير ممن رحم الله. والحاصل أنه طغى في المسلمين في زمن الشيخ رحمه الله الكلام في صفات الله جل وعلا, ويعود السبب في ذلك لانتشار علم الكلام وعلم المنطق الذي اعتمده كثير ممن يبنون عقائدهم على ما يسمونه البراهين والمقدمات والنتائج, ويسمونها الأدلة العقلية دون الاهتمام بأدلة القرآن والسنة, لا سيما فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات, مدعين بأن أدلة الكتاب والسنة لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن, وأن الأدلة اليقينية هي علم الكلام وبراهين المنطق بزعمهم. فحصل ضلال كبير, وانتشر مذهب الجهمية وأمثاله, فحصل في هذا الباب خلط عظيم في باب الأسماء والصفات. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne Cheikh l'Islam Ahmad ibn Taymiyyah, eh bien c'est le grand imam, l'océan de science, qui n'avait pas d'équivalent dans la quête de la science et dans la da'wa à Allah et dans la lutte dans le sentier d'Allah, Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a donné à cette Ummah à une époque où le monde musulman était rempli de fitan et était dans un sommeil profond d'insouciance et de suivi aveugle et de fanatisme, et que les différentes innovations s'étaient propagées dans les pays musulmans, de même que les superstitions et les innovations qui s'étaient propagées et qui s'étaient répandues partout à son époque. Et malgré qu'il y avait à cette époque-là de grands savants dans le fiqh parmi les fuqaha, excepté que leurs efforts étaient concentrés sur le fiqh seulement. Ils ne donnaient aucune importance ou très peu d'importance à la aqidah. Quand c'était les questions d'aqidah, ils ne faisaient que suivre aveuglément. Les ulama à cette époque se concentraient uniquement sur le fiqh, donnaient très peu d'importance à l'aqidah. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que souvent ils ne faisaient que suivre aveuglément parmi les gens de la bid'a et des passions les avaient précédés. Donc qu'est-ce qui se passait? C'est ça. Ils apprenaient avec des gens qu'est-ce que d'autres avaient appris, et puis ils se transmettaient ça de l'un à l'autre sans vraiment vérifier ou comprendre, juste suivre aveuglément qu'est-ce qu'ils avaient appris de l'un à l'autre. Excepté un petit nombre parmi ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait fait miséricorde. Et ensuite donc, qu'est-ce qui était arrivé aussi pendant cette période, c'est que il y a eu comme une vague à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, une vague de la bid'a des kalam, al-kalam fi sifat, c'est-à-dire le fait de vouloir nier les attributs divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était quelque chose qui s'était répandu à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et la cause de la propagation de cette bid'a de ilm al-kalam et de ilm al-mantiq à l'époque, c'était à cause du fait que beaucoup d'entre les individus à l'époque qui s'occupaient de la religion, eh bien, avaient des croyances ou une aqidah qui était une aqidah de bid'a, aqidah des gens de kalam. Et donc, ils considéraient que il fallait suivre les preuves rationnelles et que c'était ça qui était la base, c'était ça qui était ça qu'ils devaient suivre, ce qu'ils appelaient al-barahin et al-muqaddimat ou al-nataij. Ils appelaient ça les preuves rationnelles. C'est des règles qu'ils avaient inventées par d'eux-mêmes et qui contredit qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Donc ils appelaient les gens à retourner à ça, et ils disaient aux gens que les preuves du Coran et de la Sunna ne donnent pas la certitude au sujet de la croyance, elles ne font que donner une connaissance incertaine, ou quelque chose qui n'est pas certain, tandis que les preuves certaines, c'est les preuves du kalam et les preuves rationnelles et les preuves de la philosophie et des choses de ce genre. Donc, à cause de ça, de grands égarements se sont propagés. Et la voix des Jahmiyyah et des Mu'tazila et de ces semblables-là se sont propagés aussi. En particulier la voix des Asha'ira et ainsi de suite. Donc ça s'est propagé dans la Ummah à cause de ça. Et donc il y a eu une grande confusion et beaucoup de mélange dans les questions qui ont rapport avec Al-Asma Sifat à cette époque-là. وانتشر بالإضافة إلى مذهب الجهمية مذهب المعتزلة والأشاعرة، وظهر الكثير من الفرق المخالفة لمنهج السلف، وصار هذا المنهج هو السائد في ذلك الوقت، كما انتشرت القدرية وهم الذين ينكرون القدر أو يغالون في إثباته ويسمون الجبرية، إلى جانب شيوع الطرق الصوفية، فكان ذلك سببا لتفشي ظاهرة البناء على القبور والمشاهد، فصارت القبور أوثانا تعبد من دون الله ويطاف حولها ويتبرك بها مع ما يرافق ذلك من الشرك كدعاء الموتى والاستغاثة بهم لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وكل هذا بإملاء وترويج من أعداء الإسلام. Donc on a vu se propager en plus de la voie des Jahmiya, la voie des Mu'tazila, la secte des Mu'tazila et des Asha'ira, et beaucoup, yani beaucoup de différentes sectes en opposition avec la voie des Salaf aussi. Donc c'est la voie qui avait à cette époque-là le dessus et qui dirigeait, yani, disons, qui était en tête à cette époque-là. De même que on a vu se propager également la secte des Qadariya, et ce sont ceux qui renient Al-Qadar, ils nient Al-Qadar et ils exagèrent dans le fait de l'affirmer, hein? Comme ce qu'on appelle, donc c'est ça, le Cheikh il dit, de même qu'on a vu se propager la secte des Qadariya, et ce sont ceux qui nient le Qadar ou bien qui exagèrent dans son affirmation. Et on les appelle aussi Al-Jabriya. Et à côté de ça également, on a vu la propagation des différentes sectes soufis se propager également. Et la raison de ça aussi, pour cette raison-là, on a vu aussi se propager par la suite le fait que des gens ont commencé à construire des mosquées et des mausolées et des oratoires au-dessus des tombeaux des hommes pieux. Et on a donc vu commencer les gens commencer à adorer les tombes en dehors d'Allah comme des idoles et à faire le tawaf autour de celles-ci et à chercher d'elles la bénédiction et y aller de se coller aux tombes, aux tombeaux, et de les caresser, de se coller dessus pour chercher de la bénédiction ou des choses de ce genre. Et en plus de qu'est-ce qui se faisait également comme shirk autour de ces tombeaux-là, comme l'invocation des morts en dehors d'Allah et le fait de les appeler au secours pour qu'ils remplissent nos besoins ou des choses de ce genre, et pour demander la délivrance des malheurs qui pouvaient se produire parfois, donc ils les imploraient, ils les invoquaient en dehors d'Allah. Donc, tout ça c'était du shirk qui se propageait à cette époque-là. Il dit وَكُلُّ هَذَا بِإِمْلَا يعني وترويج من أعداء الإسلام. Donc tout ça c'était dicté et propagé par les ennemis de l'islam.
وَمِمَّا رَاجَ وَانْتَشَرَ كَذَلِكَ ظَاهِرَةُ التَّقْلِيدِ فِي الْفِقْهِ تَقْلِيدٌ يؤخذ فيه القول دون معرفة الدليل عليه ودون تمحيص وترجيح بين الأقوال حسب الأدلة، وإنما كان الدليل عندهم هو ما يقوله الإمام، مع أن الأصل في ذلك أن الفقه يدور مع الدليل حيث دار لا مع قول فلان، لأن العلماء ليسوا معصومين من الزلل والخطأ والغفلة، فإنه قد يصدر منهم أخطاء في اجتهاداتهم وفتاويهم، وهم معذورون في ذلك إن أخطأوا لكونهم من أهل الاجتهاد، مع أن الأصل في هذا هو أن نتبع الدليل وندور حيث دار دون النظر إلى من قال به، فكل من جمد على رأي متمسكا بقول فلان دون النظر إلى الدليل كان متعصبا ومقلدا، وهذا ما كان سائدا في تلك الفترة وفي هذا الجو المليء بهذه الفرق وتلك الفتن والبدع ظهر الشيخ أحمد ابن تيمية رحمه الله.
Donc le cheikh il dit également que à cette époque-là, qu'est-ce qui s'était propagé? C'était là le phénomène du taqlid, le fait de suivre aveuglément les savants dans le fiqh, dans les questions de fiqh, et de prendre leurs paroles comme étant des, comme si c'était des preuves. Alors que le cheikh dit le taqlid c'est de prendre la parole de quelqu'un sans connaître sa preuve, hein, et sans rechercher à connaître la position la plus correcte entre les différentes paroles ou positions selon les preuves. Donc, pour eux, la preuve, c'était uniquement ce que disait l'imam.
Alors que dans la, à la base, c'est pas la parole de l'imam qui est la preuve, mais plutôt dans le fiqh, c'est de y retourner à la preuve et de suivre la preuve là où elle est, peu importe qui a qui a eu la position en question, hein, ou qui a prôné la question ou la position en question. Du moment que la position est supportée par la preuve et que c'est cette position qui est plus près de la vérité, eh bien on est supposé de la suivre, peu importe qui est le savant qui a prôné cette position-là. Parce que les ulama ne sont pas infaillibles des erreurs et de l'indifférence ou d'une faute qu'ils peuvent commettre. Et donc, c'est possible que les savants se trompent dans leurs efforts de chercher la vérité et dans leur fatwa. Et donc, s'ils se trompent, ils sont bien entendu excusés de ces erreurs-là. Toutefois, c'est-à-dire ils sont excusés parce qu'ils font partie des gens de l'ijtihad, ils font partie des gens qui ont les capacités et les moyens et les moyens nécessaires pour être capables de faire ces efforts-là dans la science pour arriver à connaître la position correcte. Alors que, par contre, la base dans cette question-là, c'est qu'on doit suivre la preuve, peu importe où la preuve, peu importe l'endroit où la preuve, d'où elle vient ou où elle va, il faut la suivre sans regarder qui a ramené cette preuve. L'important, c'est qu'on suive cette preuve. Et toute personne qui reste figée sur une position et qui s'accroche à la parole de celui qui a prononcé cette position-là sans essayer de voir ou regarder sa preuve et qui s'accroche de façon fanatique et aveugle à la position de cette personne, ça c'est qu'est-ce qui a été blâmé et c'est ce qui se passait malheureusement à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'était ça qu'il y avait dans l'air, c'était ça l'attitude des gens à cette époque-là. Donc l'atmosphère était remplie de ces sectes et de ces fitanes et de ces innovations, et c'est là que est apparu ou est venu Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah rahimahullah. Ulida Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sanata 661 في حران وفي سنة 667 أغار التتار على بلده فاضطرت عائلته إلى ترك حران متوجهين إلى دمشق وبها كان مستقر العائلة ولقد سمي بالحران نسبة إلى منشئه حران. Donc le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il est né en l'an 661 dans la ville de Harran, et en 667 le Cheikh al-Islam, il avait à l'époque 6 ans. Donc à 6 ans, ses parents ont quitté la ville de Harran et ils sont partis à Damas, et c'est là que la famille était installée. On l'a appelé Al-Harrani parce que il a grandi à la ville de Harran. C'est là qu'il était quand il était plus petit. وفي دمشق طلب العلم على أيدي علمائها منذ صغره فنبغ ووصل إلى مصاف العلماء من حيث التأهيل للتدريس والفتوى مع صغر سنه ثم إن الله حباه حسن الاستنباط وقوة الحجة وفهم المعاني من الألفاظ النبوية والأخبار المروية ما جعله لا يأخذ الأقوال بمجرد النقل وإنما يعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محتذيا بذلك حذو الأئمة الأربعة رحمهم الله أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فهو ينحى منحاهم في اتباع الدليل ولا ينحى منح المقلدين المتأخرين فلا يأخذ الأقوال إلا إذا تبين له دليله من الكتاب والسنة.
Donc le cheikh explique que l'imam Ibn Taymiyyah par la suite il a commencé à chercher la science de la main des grands ulama à son époque qui étaient à Damas depuis qu'il était tout petit, et il a yani atteint des degrés très élevés dans la science très tôt dans son apprentissage, et c'est pour cette raison que les ulama lui ont donné la permission d'enseigner et de faire des fatwas parce qu'il était apte à le faire malgré qu'il était très très jeune. Puis par la suite Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, parmi yani, les dons que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, c'est la force de son intelligence et de sa capacité d'extraire et de tirer des textes, des verdicts et des leçons et des sagesses et ainsi de suite. De même que la force des preuves qu'il avait aussi, la façon qu'il ramenait les arguments et les preuves, c'était yani, très fort. Et de même que la compréhension de la signification des termes et des mots et des textes de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des paroles qui sont transmises, tout ça on fait en sorte que il ne prenait pas une parole uniquement du fait qu'elle a été transmise, mais il la mettait toujours il la présentait toujours, il la prenait toujours par rapport à qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna, et c'est-à-dire pour voir si cette parole est, pour vérifier si elle est correcte. Donc avant de la prendre, il vérifiait si cette position est en accord avec le Coran et la sunna, et si elle est en accord également avec la position des ulama, comme la position des quatre imams, rahimahumullah, Abu Hanifa, wa Malik, wa Shafi'i, wa Ahmad. Et donc, ils suivaient leur voie dans la façon dont ils recherchaient la preuve tout le temps par rapport à leurs différentes positions dans la religion. Wala yanha manha al-muqallidin. Donc, ils ne suivaient pas la voie des gens qui ne faisaient que suivre aveuglément les paroles de leurs chouyours ou les paroles de ceux avec qui ils ont étudié, mais au contraire ils retournaient aux preuves et ils ne prenaient que ce qui était clarifié avec les preuves ni dans le Coran ni dans la Sunna. وَلَقَدْ إِمْبَرَ يُدَرِّسْ وَيُفْتِي وَيَقِفُ فِي وَجْهِ الْمُبْتَدِعَةِ في سن مبكرة لما من الله عليه من غزارة العلم وقوة الحجة وحضور الذاكرة فلقد عني بالحديث وحفظ القرآن وأقبل على الفقه والعربية والتفسير حيث انبرى أهل دمشق لفرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته.
Donc ensuite Cheikh Al-Fawzan il explique que donc Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a commencé à enseigner, à donner des fatwas, et il se tenait yani, en face des gens de bid'ah yani, depuis qu'il était très jeune, à cause de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné comme force dans la science et dans la force dans l'argumentation aussi, dans la façon de ramener les preuves, et également dans la mémoire qu'il avait. Il était capable de se souvenir des preuves et des textes avec beaucoup de facilité. Et il avait également donné au hadith beaucoup d'importance et à la mémorisation du Coran. Et également la science du fiqh et de la langue arabe et du tafsir. Et donc il a étonné beaucoup des gens de son époque, parmi les gens de Damas, à cause de son intelligence et de sa compréhension et de sa mémoire, donc sa mémorisation. Les gens étaient étonnés de lui.
Ils étaient éblouis par ses compétences et par son intelligence.
والناظر في التاريخ يجد أن أعداءه كثيرون من عصره إلى وقتنا الحاضر وغالبهم أعداء عقيدة السلف الصالح ومن هؤلاء فئة الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم في نفي أو تأويل الأسماء والصفات فلقد انبرى لهم وبين الحق الذي عليه السلف الصالح في هذا الباب وألف في ذلك ودرس وناظر حتى إنهم تكالبوا عليه وألبوا الآخرين ضده ووشوا به إلى ولاة الأمور وفسجن مرات عديدة.
Donc Cheikh, il dit que celui qui regarde dans l'histoire, il trouve que Ibn Taymiyyah avait beaucoup d'ennemis. À son époque, depuis son époque, jusqu'à l'époque actuelle même, aujourd'hui. Et la plupart d'entre eux sont les ennemis de la aqida des salaf al-salih. Et parmi ceux-là, les groupes des Jahmiyyah et des Mu'tazila, et ceux qui ont suivi leur voie dans la négation des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les Asha'ira et les Maturidiyya et les Ahbash et d'autres également. Et donc, Cheikh l'Islam, il a tenu tête à ceux-là et il a clarifié la vérité à ce sujet-là. Il a expliqué ce sur quoi se tenaient les salaf al-salih dans cette question et dans d'autres sujets également. Et il a écrit, il a enseigné, il a débattu. Et à un tel point qu'ils se sont tous virés contre lui. Et ils ont tous essayé de mettre les gens contre lui aussi. Et ils ont même été jusqu'à essayer de se plaindre de lui auprès des dirigeants. Et donc, il a été enfermé et emprisonné de nombreuses fois à cause de ça.
Voilà, قد سلكوا معه كل مسلك وناظروه ولكن هيهات فإن الله أظهره عليهم بما كان عليه من اتباع الحق والانتصار لمنهج السلف الصالح فدحر ما معهم من الشبه فلم يجدوا ملجأ إلا اللجوء إلى السلطة فوشوا به إلى ولاة الأمور فسجنوه ظنا منهم أنهم سيصدونه عن العمل فما أفلحوا بل كان شغله في السجن أكثر من شغله خارجه ولهذا يقول ما يفعل بأعدائي فإن طردهم لي سياحة وسجنهم خلوة بربي ومن أقواله أيضا ما يفعل بأعدائي أنا جنتي في صدري.
Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah Cheikh Al-Fawzan il explique que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ses ennemis ont tout essayé avec lui pour le faire arrêter et pour le faire taire et pour le stopper. Mais ils n'ont pas été capables. Ils ont essayé de débattre avec lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait toujours la victoire contre eux. Parce qu'il défendait ce que suivaient les salaf al-salih. Et parce qu'il défendait le manhaj des salaf. Donc il réussissait toujours à réfuter et à détruire leurs shubuhat et leurs faux arguments. Donc il n'arrivait jamais à trouver de moyens contre lui, et c'est pour ça qu'ils ont eu recours à la plainte envers les autorités à son époque. Donc ils allaient vers les dirigeants et ils essayaient de mettre les dirigeants contre lui, et ils mentaient sur lui. Donc il se faisait souvent arrêter et emprisonner. Et il pensait qu'en l'emprisonnant, c'était la façon par laquelle ils allaient le faire stopper ses efforts et sa da'wa et son travail. Mais encore là, ils avaient échoué. Parce que c'est le contraire qui se produisait. Puisque lorsque le cheikh était en prison, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il travaillait encore plus que lorsqu'il était en liberté. Et il avait encore plus de temps pour écrire et réfuter. Donc, ils n'ont pas réussi. à l'arrêter. Et parmi les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, justement à ce sujet-là, il disait: qu'est-ce que mes ennemis pourraient faire contre moi? S'ils m'expulsent, c'est pour moi un genre de tourisme sur la terre. S'ils m'emprisonnent, eh bien c'est comme une retraite pieuse, hein, dans laquelle je reste seul avec mon Seigneur. Et parmi ses paroles également, il disait: qu'est-ce que mes ennemis pourraient faire contre moi? Moi-même, il dit, moi, mon paradis est à l'intérieur de mon cœur. فكان رحمه الله هو في السجن مشغولا بأمور العلم فقد كان يكتب ويؤلف ويفتي إلى حد أنهم لما رأوا أنه لا يكف عن نشر العلم وهو في السجن أخرجوا ما عنده من القراطيس والأقلام ومن تلك الفرق الذين انبرى لهم الشيخ الصوفي الخرافيين فقد رد عليهم وكشف شطحاتهم وأغلاطهم ووضح لهم الطريق الصحيح ومن هؤلاء أيضا أهل الكلام والمنطق فرد عليهم وبين خطأ منهجهم في الاستدلال وألف في ذلك كتبا ضخمة مثل درء التعارض بين العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية في رده على الرازي وهي كتب مطبوعة متداولة ورد كذلك على النصارى الذين يكيلون الشبه للمسلمين فألف كتابا سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح رد فيه عليهم وأفحمهم ورد كذلك على الشيعة والمعتزلة في كتابه المشهور منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية. Donc le Cheikh, il explique, il dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'il était en prison, donc il s'occupait donc de travailler beaucoup dans tout ce qui avait rapport avec la science, et il écrivait, et yani il faisait des fatwas, il écrivait des livres, à un tel point que lorsqu'ils ont vu qu'il n'arrêtait pas de propager la science alors qu'il était en prison, eh bien ils l'ont privé de ses crayons et de ses livres, de ses feuilles pour écrire. Et donc parmi les sectes que Cheikh al-Islam a réfutées à son époque, il y a l'exemple des soufis. Des soufis qui inventent des mensonges et qui racontent des choses fausses dans la religion. Et il les a réfutés et il a dévoilé leurs égarements et leurs faussetés et leurs erreurs. Et il leur a clarifié la voie correcte. De même que parmi ceux qu'il a réfutés, il y avait également les gens de Kalam et les gens de la dialectique aristotélicienne, ceux qui se basent sur la raison et la philosophie et la logique d'Aristote et des choses de ce genre. Donc il les a réfutés, il a clarifié leurs égarements et leurs erreurs dans leur méthodologie et dans la façon dont ils ramènent les argumentations et les preuves. Et il a écrit, pour les réfuter, plusieurs livres, et parmi les livres qu'il a écrit, il a écrit un qui est assez volumineux, qui s'intitule Dar al-Ta'arud al-Aql wal-Naql, c'est-à-dire repousser l'opposition entre la raison et la révélation. Il a également écrit un livre qui s'appelle Bayan ou Talbis al-Jahmiya. C'est une réfutation de celui qu'on appelle Ar-Razi, qui était un philosophe de l'époque, un des gens de Kalam, parmi les gens de Kalam. Et ça s'intitule donc Bayan Talbis al-Jahmiya, c'est-à-dire la clarification des mélanges des Jahmiya, ceux qui mélangent entre le vrai et le faux. Et donc tous ces livres-là sont publiés. Ces livres-là sont publiés et ils sont disponibles dans les librairies. De même que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a réfuté les chrétiens qui ramènent beaucoup d'ambiguïté chez les musulmans. Et il a écrit un livre pour les réfuter qui s'intitule La réponse correcte à celui qui a changé la religion du Messie, c'est-à-dire la religion de Jésus, alayhi salam, Isa, Ibn Maryam, fils de Marie. Donc il les a réfutés, il les a grillés complètement dans ce livre.
Il a également réfuté les Shia et les Mu'tazila dans son livre très célèbre qui s'intitule Minhaj al-Sunnah Nabawiyya fi naqd kalam al-Shia wa al-Qadariyya. أما ما يتعلق بالجانب الفقهي في حياته رحمه الله فإنه جدد في كثير من المسائل في هذا الجانب كما ذكرنا سابقا فكان يفتي بموجب الدليل وما عليه أصول الأئمة والسلف ويحرر المسائل فصارت فتاواه بالمئات بل بالألوف وكان من عادته أن لا يجمع الفتاوى وإنما كان إذا سئل أرسل الرسائل والفتاوى إلى السائلين فكان السائلون يحتفظون بهذه الأجوبة ويحرصون عليها ثم جمعت هذه الفتاوى فبلغ الموجود منها 35 مجلدا أطلق عليها مجموع الفتاوى أضف إلى ذلك مجلدين للفهارس فصير مجموعها 37 مجلدا وهي لا تزال تلقى الرضا والقبول من عامة المسلمين في شتى البلاد ولهذا يبادر إلى طبعها ونشرها مرارا وتكرارا.
En ce qui concerne les questions qui ont rapport avec le fiqh, alors durant sa vie, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a revu plusieurs questions qui ont rapport avec les questions du fiqh, comme on l'a mentionné précédemment. Il a régénéré certaines questions et corrigé certains problèmes qui existaient dans plusieurs questions qui ont rapport avec le fiqh. Et il faisait toujours ses fatawa en se basant sur les preuves. Et également sur les fondements sur lesquels se tenaient les imams des salafs. Et il analysait et corrigeait les questions. Et on retrouve donc ces fatawas par centaines et même par milliers. Et son habitude c'était que il ne rassemblait pas ses fatawas. Quand quelqu'un venait pour lui poser une question sur la religion, eh bien il écrivait la réponse et il l'envoyait à la personne qui lui avait posé la question. Et c'est les gens qui recevaient les réponses du cheikh qui préservaient ces réponses. Et il faisait beaucoup de... il donnait à ses réponses beaucoup d'attention. Donc il faisait beaucoup d'efforts pour les préserver. Et c'est par la suite, plus tard, que les fatawa du cheikh ont été réunis et rassemblés ensemble. Et on en retrouve plusieurs aujourd'hui qui ont été réunis dans un recueil qu'on appelle Majmu' al-Fatawa. C'est un recueil qui est composé de 35 volumes. Et si on ajoute à ces 35 volumes les deux volumes qui composent la table des matières, et donc ça fait 37 volumes en tout. Et donc, on voit que les musulmans en général, partout dans les pays musulmans, ont accepté et ont été satisfaits. Et c'est pour cette raison-là que les musulmans se sont précipités à les publier et à les diffuser plusieurs fois par la suite, alhamdulillah. Ensuite, il dit « وَلَقَدْ تَعَرَّضَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهِ لِكُلِّ هَذِهِ الْفِرَقِ ونازلها وانتصر عليها وبقيت كتبه منارات تهتدي بها المسلمون ويسارع إليها طلبة العلم والعلماء تعلما وتعليما وأما الذين عارضوه فلقد أطفأ الله ذكرهم وقطع دابرهم وأما هو رحمه الله فقد أعلى الله جل وعلا ذكره وانتشر علمه وأقبل طلاب العلم والعلماء على كتبه ينهلون من علمه كأنه حاضر بينهم. Donc le cheikh explique et il dit que donc le cheikh il s'est donc occupé de toutes ces différentes sectes et il les a toutes
attaquée et toute réfutée. Et il a eu le dessus sur elle. Et ses livres sont restés comme des phares avec lesquels les musulmans sont guidés. Et les étudiants en sciences islamiques se précipitent vers ces livres, ainsi que les ulama pour apprendre et pour enseigner de ces livres-là. En ce qui concerne ceux qui ont opposé Cheikh l'Islam, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a éteint leur rappel et il a coupé leur descendance. À un tel point qu'on n'entend même pas parler d'eux aujourd'hui. Hein? Tandis que Cheikh l'Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, a élevé son rappel. Et sa science s'est propagée partout. Et les étudiants en sciences islamiques, ainsi que les ulama, ont accepté ses livres. Hein? Et ils ont propagé et diffusé sa science. Comme s'il était présent parmi eux. ولقد ألف الشيخ في فنون كثيرة في فنون مختلفة ولم يكن غرضه من ذلك مجرد التأليف فقط وإنما كان غرضه سد حاجة الناس من العلوم التي تهمهم لصلاح دينهم ودنياهم ولذلك لما سئل عن عدم تصنيفه تفسيرا مستقلا في القرآن لا سيما وقد كان متبحرا فيه قال التفاسير كثيرة وموجودة لكن نكتب بحسب الحاجة فالدافع له للكتابة إنما هي مصلحة الناس وحاجتهم لمعرفة أمور دينهم وليس مجرد حب الظهور وشغف الكتابة والتأليف. Le cheikh, il explique que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a écrit dans de nombreuses sciences, dans de nombreux domaines, et son intérêt dans le fait d'écrire ses livres, c'était pas juste d'écrire, hein, de rassembler des livres. Non, son but c'était de remplir les besoins des gens de ces différentes sciences. Et d'expliquer, de parler des sciences qui sont importantes pour les gens dans leur religion et dans leur dunya. Et lorsqu'on lui a posé la question au sujet du fait que, pourquoi il n'a pas écrit de livres, de tafsir séparés, et il a répondu, il a dit, alors, étant donné qu'on sait que Cheikh l'Islam en particulier était. Il avait une science immense au sujet du tafsir, et donc ils ont posé la question pourquoi il n'a pas écrit un tafsir, et il a répondu que le nombre des tafsirs qui existaient déjà était nombreux, en voulant dire c'est pas quelque chose dont il y a un besoin actuellement. Donc il écrivait selon le besoin des gens, selon ce que les gens avaient besoin de connaître. Et qu'est-ce qui le poussait à écrire? C'était principalement le besoin que les gens avaient pour connaître les affaires de la religion, et non pas uniquement de se montrer, ou de montrer par exemple le besoin d'écrire, de paraître devant les gens comme étant quelqu'un qui écrit beaucoup, qui prolifère dans l'écriture et dans les livres, et ainsi de suite. ومن مزايا الشيخ ومحاسنه إلى جانب علمه أنه باشر الجهاد بنفسه لما غزا التتار بلاد المسلمين فكان يقود الجيوش بنفسه ويحمل السيف ويقاتل ويشجع الناس وولاة الأمور فيحصل النصر بإذن الله بتشجيعه وتثبيته لأفئدة الجند وتبشيرهم بالنصر فكان له رحمه الله جهود عظيمة في القتال في سبيل الله. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah également, parmi les bonnes qualités qu'il avait, les bonnes choses qu'il faisait, en plus de sa science, c'est qu'il a lui-même participé au djihad avec sa personne contre les Tatars qui avaient envahi les pays musulmans. Et il les a même, guidés dans l'armée lui-même, par sa personne. Et il portait l'épée, et il combattait avec courage. Hein. Il encourageait les gens et les dirigeants à les combattre. Et donc, par la permission d'Allah, ils ont eu la victoire. Par ses encouragements et par ses raffermissements des cœurs des armées. Et par les encouragements et les annonces de la victoire qu'il leur faisait. Et donc, il avait, à cause de cela, des efforts, des grands efforts dans le combat, dans le sentier d'Allah.
وكما أنه جاهد بلسانه وبقلمه وبسيفه فحصل من ثمرات جهوده وجهود فحصل من ثمرات جهاده وجهوده ثروة علمية عظيمة هي بين أيدينا الآن وتخرج على يديه تلاميذ قاموا بالمهمة من بعده مثل الإمام ابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي والذهبي والمزي وغيرهم ممن تتلمذوا على يديه فقاموا من بعده بنشر الدعوة إلى الله ونشر علمه.
Donc le cheikh il dit de la même manière qu'il avait lutté, comme il a lutté avec sa langue, avec sa plume, avec son épée, eh bien il y a eu à toute cette lutte et à ces efforts de nombreux fruits et de nombreuses richesses scientifiques qu'il a laissées entre nos mains jusqu'à aujourd'hui, qui sont présentes entre nos mains jusqu'à aujourd'hui. Et des gens ont également profité de sa science à son époque, et il a eu de nombreux élèves qui ont, après lui, propagé également la science. Parmi eux, l'exemple de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, et l'imam Ibn Kathir, et l'imam Ibn Abd al-Hadi, et l'imam al-Zahabi, et l'imam al-Mizzi. Tous ces imams font partie des élèves de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui ont étudié avec lui et qui ont après lui propagé sa science et propagé la da'wa à Allah et propagé la science également. Donc tout ça c'est des exemples. Et il dit « Wa laqad hasala fil qarn al-thani » في القرن الثاني عشر أن وصلت كتب الشيخ إلى بلاد نجد فأولع بها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان هو الآخر يعيش في جو علمي كان أغلبه يدور في فروع الفقه وكانوا يتمسكون في ذلك الوقت بمذهب الأشاعرة مثل غيرهم لأنهم كانوا يذهبون إلى الشام ويتلقون العلم من أهل الشام ولا سيما فلسطين وكانت الأشعرية هي المذهب السائد في تلك البلاد فكانوا يعودون بفقه المذهب وفيما يتعلق بجانب العقيدة وهم على عقيدة الأشاعرة مع ما يحصلون عليه من الفقه أضف إلى ذلك أن بلاد نجد كانت قد امتلأت بالبدع والخرافات فقام هذا الإمام يعيد للإسلام صفاءه مما علق به من الشركيات والخرافات وتعظيم القبور فاهتم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم يقرأها ويلخص منها يؤلف على ضوئها ويدعو إلى الله عز وجل حتى قامت الدعوة في بلاد نجد على غرار دعوة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. Donc le cheikh il explique que dans le 12e siècle il y a eu les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sont rentrés dans la région du Najd en Arabie Saoudite. Et à l'époque, ça ne s'appelait pas, bien entendu, l'Arabie Saoudite encore. C'était Al-Najd. Et Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, faisait partie des gens de cette région-là. Et il vivait dans un environnement de science, parce que sa famille était des ulama. Et la plupart de ce qu'ils avaient comme science était dans les questions du fiqh, et ils s'accrochaient à ça. Et ils étaient, en ce qui concerne la aqida, sur la question de la croyance, ils étaient sur la voie des Asha'ira, comme plusieurs d'autres également. Parce qu'ils allaient étudier en Syrie souvent, et ils cherchaient la science de cet endroit-là. Et les gens de la Syrie, et en particulier de la Palestine, à cette époque, ils étaient sur la aqida des Asha'ira. Et c'était la voie qui était la plus en avance à cette époque-là, dans ces pays-là. Et ils revenaient donc avec le fiqh du mazhab, mais en ce qui concerne la aqida, eh bien, ils étaient sur la aqida des Asha'ira. Et donc, ils avaient donc le fiqh et la aqida des Asha'ira. Allah al-musta'an. Et ajoute à ça également que dans la région du Najd, à cette époque, il y avait plein de bid'ah, plein d'innovations et plein de superstitions. Et les gens avaient pratiqué plusieurs formes de shirk, différentes shirkiyat. Donc, Cheikh l'Islam est venu et il a ramené la pureté de l'Islam. Il l'a purifié de tout ce qui était mélangé avec, comme les différentes superstitions et les différentes innovations qui avaient été rajoutées. Et donc, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a donc réfuté ces superstitions-là et cette vénération des tombeaux que les gens avaient. Et il s'est préoccupé beaucoup des livres de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et des livres de son élève ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Il les lisait et il en faisait des résumés. Et il écrivait également à la lumière de ces livres-là et il invitait à Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que la da'wa soit propagée dans les régions du Najd. Et que la da'wa donc de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim soit propagée. فالإمام محمد بن عبد الوهاب من إنتاج تخرج يعني إنما تخرج فالإمام محمد ابن عبد الوهاب إنما تخرج على كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم وعلى منهجهما في الدعوة إلى الله وابن تيمية إنما نهل من معين السلف واقتفى أثرهم ونهج نهجهم فنفع الله بدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الجزيرة العربية وجاورها وهذا من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Donc l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a donc profité des livres de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il a gradué de ces livres-là et de les livres de l'imam ibn al-Qayyim également et de leur manhaj, leur méthodologie dans la da'wa à Allah. Et donc ibn Taymiyyah, il s'était abreuvé uniquement de la source des salafs et il a suivi leur voie et leur chemin. Ibn Taymiyyah a donc fait profiter Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de la da'wa du Cheikh Ibn Taymiyyah. Donc il a fait profiter de cette da'wa à toute la péninsule arabe et tout ce qui est aux alentours. Et donc ça, tout ça, ça fait partie des hasanat, des bonnes œuvres de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. كما سبق أن ذكرنا فإنه لم تشغله المضايقات والمحاسبات التي اعترضت طريقه بل كان يتلقاها بالصبر واليقين وعدم اليأس وكان يكتب لتلاميذه في السجن ويثبتهم ويوطنهم
على الصبر وعلى الاحتساب وعلى مواصلة الجهاد، ورسائله في هذا الجانب لا تزال موجودة.
Donc le cheikh il explique que cheikh l'islam il ne se laissait pas comme on l'a mentionné, il ne se laissait pas distraire par les difficultés et par les problèmes qui se présentaient, les obstacles sur son chemin. Au contraire, il les acceptait, il les prenait avec patience et endurance et certitude, et il ne se décourageait jamais, il ne perdait jamais l'espoir. Et il écrivait même alors qu'il était en prison à ses élèves, et il les raffermissait et il les encourageait, il leur donnait le conseil de rester patient et endurant, et d'accepter ces épreuves-là comme étant des épreuves qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de chercher la récompense d'Allah dans cette patience et de continuer dans la lutte pour la vérité, pour la propagation de la da'wa. Et ses écrits à ce sujet-là sont nombreux et ils sont toujours présents, c'est-à-dire on les a toujours avec nous aujourd'hui.
الشيخ الزي والشيخ رحمه الله مؤلفات كثيرة لا تحصى لا تكاد تحصى، ومن بينها هذا المؤلف الذي بين أيدينا الآن، حيث سنشرع إن شاء الله في التعليق عليه حسب الاستطاعة. والكتاب بحر خضم زاخر، شهرته بلغت الآفاق، وقد احتفى به أهل العلم قراءة ودراسة، فهو في الحقيقة كتاب يناسب كل وقت، فكأنه كتب في وقتنا هذا، وعنوانه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي أن الصراط المستقيم الذي قال الله جل وعلا فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو هذا الصراط صراط الله، كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فاتباع هذا الصراط يقتضي مخالفة هذه الفرق الضالة، كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمسلم يطلب من الله أن يهديه إلى الصراط، أي الطريق القويم، وأن يجنبه طريق الضالين والمنحرفين عن صراطه. فالمغضوب عليهم هم الذين أوتوا علما إلا أنهم لا يعملون بمقتضاه كاليهود، فإنهم كانوا كما ذكر الله تعالى أهل كتاب وأهل علم، ولكنهم لم يعملوا بعلمهم والعياذ بالله. فغضب الله عليهم ويشبههم كل عالم لا يعمل بعلمه. دونك le cheikh, cheikh l'islam rahimahullah, il dit que le cheikh il a beaucoup d'écrits et beaucoup d'ouvrages, et c'est à un point tel que c'est difficile à calculer le nombre de livres qu'il a. Et parmi ces livres et ces ouvrages, il y a celui qui est entre nos mains maintenant, c'est à dire le livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, que nous allons inshallah commenter selon notre capacité. Et c'est un livre qui est un océan, qui est rempli de connaissances et de choses bénéfiques. Le cheikh il a plusieurs livres qu'il a écrits, et comme on a dit, donc ce livre c'est un livre qui est très important. C'est un océan de bienfaits, il y a beaucoup de bien dedans. Et il est célèbre, la popularité de ce livre elle a atteint les horizons, et les hommes de science ont toujours donné à ce livre une grande importance,
soit dans la lecture ou dans l'enseignement également. Et donc, en réalité, c'est un livre qui correspond ou qui convient à toutes les époques. Et donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, et ça c'est réellement quelque chose qu'on a constaté en fait, qu'on constate maintenant en lisant le livre surtout, c'est que c'est un livre qui a, on dirait qu'il avait été écrit pour notre époque. Subhanallah. Donc, quand on le lit, on dit, subhanallah, c'est comme s'il avait été écrit pour nous aujourd'hui. Et le titre de ce livre, c'est « Iqtida al-sirat al-mustaqim mukhalafatu ashab al-jahim ». Et donc, le chef, il va commencer à expliquer déjà le titre, hein, et il va donner une petite introduction. Donc, nous, on va s'arrêter ici, mais juste pour, avant de terminer, c'est juste pour expliquer qu'il veut dire que le titre signifie quoi? Il signifie que le droit chemin qu'on est ordonné par Allah de suivre implique de contredire les gens de l'enfer, c'est-à-dire les gens qui sont parmi les koufars, ceux qui ont qui font partie des gens du livre, les juifs et les chrétiens, et tous ceux qui leur ressemblent parmi les koufars. Donc si tu veux être sur le droit chemin, tu dois contredire ces gens-là. C'est comme si pour clarifier que le musulman ne doit pas essayer de ressembler aux kuffars et aux mushrikines, et il doit se distinguer d'eux et les contredire dans leur voie d'égarement. Donc c'est ça le sujet du livre, et c'est un sujet donc très 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 important, surtout comme on sait aujourd'hui à l'heure actuelle l'influence que les kuffars ont dans les pays musulmans, et que cette influence là elle touche tous les différents plans et les différents points de vue de la vie, l'influence sur le plan de l'influence sur le plan de la culture, sur le plan de la langue, sur le plan de la science, sur le plan de la technologie, sur le plan des idées, sur le plan des manières, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la religion, sur le plan de la politique, sur le plan de l'économie, sur tous les différents aspects de la vie actuelle, on voit que les kuffars ont influencé les musulmans et que les musulmans, malheureusement, les suivent et les imitent, ou que beaucoup d'entre les musulmans les suivent et les imitent dans ces choses-là. Et ça fait partie des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, et ça fait partie des choses qu'il nous avait justement annoncées pour nous en prévenir, hein. Et donc ce livre tombe à pile et à point sur ce sujet-là, et clarifie tout ce qui a rapport à savoir sur ces questions-là avec les preuves et les clarifications. Donc le livre, avec son commentaire, il est divisé en 5 volumes. Le volume 1 contient environ, si on calcule avec la table des matières, 476 pages. Donc, comme je vous dis, c'est pas un petit livre, c'est un gros livre. Et donc, Inch'Allah, c'est un livre que j'ai voulu enseigner depuis longtemps. Et c'est un livre que je vais expliquer et lire avec vous, donc, et j'espère que ce sera bénéfique pour nous tous, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la récompense d'avoir fait ce travail, et qu'il le rende bénéfique pour nous tous, en espérant aussi que ce soit quelque chose qui aide les musulmans à revenir à la voie droite, la voie d'Allah, et qui aidera en fait à contrer tous les efforts que sont en train de faire les kuffars pour essayer d'égarer les musulmans et les éloigner de ce droit chemin là, et en particulier les kuffars francophones, parce qu'on voit les efforts des kuffars francophones particulièrement, même si les kuffars anglophones aussi ont leur part d'égarement là-dedans, puisque eux aussi, on sait qu'ils propagent leur culture et leurs égarements, leurs mécréances et leurs idées de mécréances partout, plus que les francophones, parce que la langue anglaise, elle a une influence sur le monde entier, et tout ce que ça implique. Mais les francophones kuffar, eh bien, leur rage et leur haine de l'islam est plus apparent encore. On voit ça avec les lois contre le niqab, les lois contre le hijab, les lois de plus en plus dures contre les musulmans pour essayer de tout faire pour tuer et étouffer l'identité islamique, l'identité des musulmans et l'attachement des musulmans envers leur religion, pour essayer d'assimiler les musulmans et les faire devenir des mécréants comme eux. Donc ce livre-là, Inch'Allah, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de la science qui est dedans une lumière et une guidance pour tous les musulmans qui sont francophones et qui n'ont pas accès justement à ce genre de connaissances-là. أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.